écoute encore plus avec Elena Prado.
Alors, je me rappelle un peu de la scène de quand j'ai su que je voulais faire l'anthropologie, parce que je me suis assise face à mon père et je lui ai dit « Écoute, papa, moi, ce que j'aimerais faire, c'est étudier les gens, étudier leur comportement, comprendre pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils font comme ça, comment ça marche, etc. » Donc, il m'a dit « Écoute, tu as deux possibilités, soit tu fais de la psychologie, soit tu fais de l'anthropologie. » Après, la conversation a continué et puis la conclusion a été que je m'orientais beaucoup plus vers l'anthropologie que vers la psychologie, même si j'ai toujours eu un intérêt pour la psychologie. Et alors ça, très probablement, c'est une manière de me comprendre moi-même finalement. Comprendre qu'est-ce que c'est l'autre, puisque moi je suis à la fois française et brésilienne par exemple, si on dit ça comme ça. Je suis à la fois ici, comme tout le monde, mais je suis à la fois autre aussi, puisque je ne suis pas tout à fait comme tout le monde non plus. Et donc, c'est cette recherche de la compréhension de l'autre, de savoir comment les relations entre ce qu'on appelle les autres se passent. Et ça, c'est directement lié à mon histoire personnelle. Je suis née à Paris, dans le 14e arrondissement, comme beaucoup d'autres enfants parisiens finalement, mais de parents brésiliens par contre. J'ai aussi la double nationalité, donc ça c'est aussi... Ma nationalité française, elle est arrivée à mes 16 ans. Et elle est arrivée à 16 ans et non pas à 18, comme ça aurait dû être le cas, parce que ma mère a fait une demande de nationalité de naturalisation. Mais sinon, j'aurais eu ma nationalité française uniquement à 18 ans. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à mon sentiment, mais bon, comme je ne voyageais pas non plus beaucoup, j'avais pas forcément besoin de papier, j'avais pas cette notion des papiers d'identité, ce que ça pouvait représenter. Donc j'ai toujours eu un passeport brésilien finalement. Et à l'époque, voilà, je voulais utiliser les papiers brésiliens, mettre en avant que j'étais brésilienne et que j'avais rien de français quand j'étais là-bas. Et ici, exacerber un petit peu ce côté exotique, on va dire.
Ils sont nés où, vos parents ?
Ils sont nés à São Paulo, au Brésil, donc dans le sud-est du Brésil. Ils se sont mariés au Brésil en 1976, ils étaient étudiants. Et étant donné la conjoncture de l'époque au Brésil, donc la dictature militaire, qui faisait que la vie n'était pas simple, encore moins pour des étudiants en sciences sociales, puisque aussi on sont passés par les sciences sociales. Ils sont venus en France en 1976 avec des bourses d'études, et puis finalement ils ne sont jamais repartis. Disons que c'était un régime totalitaire militaire, que quand on faisait des sciences sociales avec l'idée d'avoir un esprit critique, c'était très mal perçu, puisque évidemment c'était une époque de censure. Et puis ils m'ont aussi raconté des histoires à l'université où un jour par exemple un professeur qu'ils avaient s'était fait enlever par... des policiers, j'imagine que c'était la police, et puis il n'était plus jamais réapparu, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc il y avait ce genre d'enlèvement, probablement la torture à la clé, etc. Et donc, c'était vraiment pas un endroit propice pour étudier. Et puis, un des professeurs de mon père lui avait dit « Écoute, si tu veux continuer dans la philosophie, il n'y a pas d'avenir ici, il faut que tu ailles en France. » Donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés ici.
Est-ce qu'il n'y a pas un lien très fort aussi entre les sciences humaines, le Brésil et la France ?
Alors oui, il y en a un. Pour tout ce qui est philosophie, ça c'est vrai. Et puis l'anthropologie aussi, puisqu'en fait, c'est un peu les anthropologues français qui ont mis en place les sciences sociales au Brésil, particulièrement à l'Université de São Paulo, en tout cas, c'est cet exemple qui me vient en tête, avec Lévi-Strauss évidemment, qui a eu la chaire d'anthropologie à l'Université de São Paulo. Et puis aujourd'hui encore, c'est évidemment très ancré dans les sciences sociales au Brésil, même si à cela vient s'ajouter les courants anglo-saxons, un peu plus en vogue maintenant.
Est-ce que le Brésil a eu une importance dans votre construction pendant votre enfance, même si vous avez passé toute votre enfance quasiment en France ?
C'est une question un peu difficile, mais je dirais que oui, comme ça, a posteriori. Après, j'ai pas de souvenir vraiment frappant de ça. J'ai juste un souvenir qui était la tentative de retour pour habiter au Brésil. Donc, quand j'avais 5 ans, où là, j'ai effectivement des souvenirs un petit peu d'odeur, de nourriture. Je me rappelle que je déjeunais à la maison, que c'était ma grand-mère qui me faisait à manger à midi, que parfois mon grand-père venait me chercher, il m'apportait toujours un bonbon, ça s'appelle un Sonho de Bolivar, ça, c'est un bonbon au chocolat avec de la cacahuète.
Parce que vos parents ont voulu à un moment donné se réinstaller au Brésil.
Donc ils ont fait cette tentative-là de retourner au Brésil, aussi parce qu'on leur avait promis des choses, que le travail serait facile à trouver, etc. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc on est revenu s'installer en France. J'ai pas vraiment de souvenirs de ça, j'ai vraiment, au contraire, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu comme une Française, si ce n'est plutôt quand j'avais des amis qui venaient à la maison qui me disaient « Ah mais c'est étrange, tu manges un plat salé avec une banane en même temps », c'était des choses très étranges pour eux, mais pour moi c'était tout à fait normal. C'est venu en fait petit à petit vers la fin du collège et le début du lycée. Parce que aussi, du coup, j'avais la possibilité d'entrer dans un lycée international et il fallait être bilingue. Et c'est plutôt à ce moment-là, finalement, que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, mais ce qui n'avait pas vraiment été le cas jusque-là.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de faire des études d'anthropologie une fois que vous avez passé votre baccalauréat ?
J'ai déplacé cette question que j'ai sur moi, sur d'autres gens qui ont une histoire similaire aussi, qui sont aussi descendants d'immigrés, sauf qu'ils ne sont pas français ni brésiliens, ils sont japonais au Brésil.
Donc là, vous nous parlez de votre choix, enfin de votre sujet de thèse.
Oui, complètement. Parce que enfin, oui, j'estime qu'il y a vraiment un lien. Alors chez moi, ça paraît très, très clair. Hein. Moi, j'ai toujours été honnête avec ça. Ça m'a toujours paru évident qu'il y avait un lien entre les questions que je me pose sur moi et les questions que je transpose donc, à la population japonaise au Brésil, qui est descendante d'immigrés aussi. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les anthropologues. Je ne sais pas s'ils ont tous ce processus-là. Je ne sais pas s'ils l'ont tous, mais qu'ils le formule pas nécessairement aussi franchement ou de manière aussi claire. L'idée, c'était de se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'être descendant d'immigrés, finalement, donc une question d'identité, une question de culture, parce que là, c'est frappant dans le cadre de mon sujet de thèse. C'était ça aussi qui m'intéressait, c'était le contraste entre des orientaux, donc les Japonais, qui sont arrivés en Occident, et en Occident un peu tropical quand même, qui est le Brésil. Donc c'était vraiment les deux extrêmes, et voir comment ça se passe aujourd'hui, donc... Aujourd'hui, c'est quand même une vieille histoire, hein. Ça va plus d'un siècle, cette histoire de la migration japonaise au Brésil. Mais il y a encore des choses qui subsistent, des stéréotypes, un imaginaire sur les Japonais. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur donc, cette population japonaise qui est arrivée au Brésil ? Pourquoi sont-ils venus ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Dans quelle ville ils se sont installés ?
Alors, donc, l'histoire de l'immigration japonaise au Brésil, elle est assez intéressante par rapport aux histoires migratoires parce que finalement, ça a été un accord conclu entre les deux pays. Donc, c'est quand même assez rare dans les flux migratoires. Donc ça a été conclu en 1908 ou juste avant, et donc le Brésil demandait de la main d'œuvre parce que c'était la fin de l'esclavage pour travailler dans les cultures de café. Donc en parallèle, le Japon essayait déjà depuis plusieurs années de promouvoir l'émigration dans son pays parce qu'il y avait énormément de problèmes démographiques après plusieurs guerres contre la Russie, contre la Chine. Et donc ils essayaient de résoudre ça en incitant la population à émigrer. Donc il y avait déjà eu une émigration japonaise qui est beaucoup plus connue à Hawaï et aux États-Unis. Et puis, quand les États-Unis ont fermé leurs portes, il a fallu trouver une autre solution. Donc, c'était par exemple le Brésil, l'Amérique du Sud, puisqu'il y a eu aussi le Pérou, et puis d'autres pays, mais en quantité moindre. Et finalement, aujourd'hui, la population japonaise au Brésil, c'est la plus grande population japonaise en dehors du Japon. On estime à 1,7 million individus d'origine japonaise au Brésil. Ils sont maintenant dispersés, mais ils sont à la base arrivés beaucoup plus dans le sud-est, là où il y avait les exploitations de café. Donc les états de Sao Paulo, justement, et du Paraná, qui est juste au sud. Donc à Sao Paulo, il y a encore une énorme présence japonaise qui est très visible. Il y a un quartier qui est un quartier historiquement d'immigrés japonais qui s'appelle Liberdade, qui aujourd'hui est entretenu comme étant le quartier japonais, le Japantown de Sao Paulo, même si aujourd'hui il est un peu folklorisé. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont un peu inédits de contacts occidentaux-orientaux.
Et qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre à travers cette population ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ?
Alors le point de départ, il est assez clair justement, c'était une des fois où je suis allée au Brésil et qu'en parlant avec ma famille, Je me demande si c'était pas ma grand-mère, parce que ma grand-mère a le don de toujours dire les choses telles que tout le monde les pense. Et donc elle disait, oui, si tu veux aller faire développer tes photos, il y a le japonais du coin, là-bas tu peux y aller. Et puis tout le monde, tous les gens à qui je m'adressais et qui me parlaient de la population d'origine japonaise, me parlaient du japonais, oui, va voir le japonais, puis en donnant des surnoms. Donc, comme on dirait le Shintok ici un petit peu. Donc, oui, il va voir Jap ou Japing, c'est un peu péjoratif parce que c'est le diminutif. Et donc, c'est toujours en apostrophant l'autre par ce surnom, justement, de Jap, par exemple. Parce que non seulement ils en parlent aux autres personnes, mais ils s'adressent aussi à eux directement comme ça. Et ça m'a vraiment choquée, en fait. Alors là, je pense que c'est la française qui parle, parce que nous, on ne parlerait pas comme ça. Enfin, en tout cas, à mon sens, on ne parle pas comme ça. Et là, c'était assez frappant de voir qu'il n'y avait pas du tout de politiquement correct là-dedans, enfin, ou que ça faisait partie justement du politiquement correct de s'adresser comme ça aux gens. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on les appelait japonais, alors qu'ils parlaient mieux portugais que moi, au final. Ils sont nés là-bas, leurs parents sont nés là-bas, leurs grands-parents sont nés là-bas parfois, et malgré tout, ils sont toujours appelés japonais. Et j'ai cherché à comprendre en fait ce qui se passait là-dessous. Et donc c'est là que j'en suis venue finalement au corps, parce que je me suis dit finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit uniquement l'apparence de la personne. On voit son physique, on voit qu'elle a des yeux bridés, on voit qu'elle a des cheveux noirs. Et de là, on va s'adresser à la personne uniquement de cette manière-là.
Et alors comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez fait votre terrain, comme on dit
J'ai naturellement commencé par le quartier qu'on appelle donc le quartier japonais, donc le quartier de l'Ibéanage, qui me semblait être représentatif, mais j'avais encore cette notion d'une communauté japonaise un peu fermée, homogène, comme c'est ce qui transparaît un peu dans l'imaginaire brésilien. Quand je parle à des gens qui n'ont pas d'origine japonaise, c'est souvent ce qu'on me raconte. Et finalement, c'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai une énorme déception de terrain. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de communauté au sens strict du terme. Et qu'il fallait voir les Japonais partout, puisqu'ils étaient partout. Ils sont brésiliens, ils sont partout, ils travaillent dans toutes les sphères possibles. Et puis, donc il a fallu, au contraire, avoir une vision ouverte du terrain et pas uniquement délimitée géographiquement, par exemple.
Et est-ce que vous vous êtes intéressé à la relation qu'ils entretiennent ou pas avec le Japon ?
Alors oui, ça en fait, c'était mon intérêt principal, mais je pensais, disons, l'intérêt qu'ils ont pour le Japon, je pensais l'aborder à travers leurs relations familiales et les traditions qu'ils allaient continuer ou pas. Et finalement, il s'est passé autre chose. Il y a eu un autre phénomène migratoire. On appelle le retour, entre guillemets, mais ce n'est pas un retour, des Japonais du Brésil vers le Japon. Donc en fait, le Japon a ouvert ses portes pour les descendants de Japonais à travers le monde, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre non qualifiée et ils préféraient piocher dans leur descendance. Comme le Brésil était en crise économique, enfin, et toujours plus ou moins en crise économique, il y a eu beaucoup de Brésiliens d'origine japonaise qui ont souhaité immigrer vers le Japon pour continuer à trouver des opportunités de travail. Et j'ai dû, au fur et à mesure de mon terrain, je me suis rendu compte que les personnes que je rencontrais n'étaient pas nécessairement concernées par ce phénomène-là, elles directement, parce qu'elles n'étaient pas nécessairement, elles, parties au Japon pour travailler comme main-d'œuvre non qualifiée. En revanche, elles connaissaient forcément des personnes dans leur entourage qui étaient passées par là. Et donc c'est quelque chose d'assez dur, parce que la vie au Japon a été finalement un choc pour ces Brésiliens qui partaient pour soi-disant retrouver leurs origines, qui n'ont pas du tout retrouvé. Donc ça a été très dur à vivre. Et puis maintenant, là, depuis la crise au Japon, donc depuis 2008-2011, avec le tsunami en plus, il y a beaucoup de ces Brésiliens qui sont partis au Japon, qui sont en train de revenir, et c'est encore dur, une nouvelle fois, de revenir au Brésil et de se réadapter.
Et alors, une fois que cette thèse sera finie, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez envie de faire?
Ce qui m'intéressera toujours, c'est vraiment l'idée d'étudier le corps, d'étudier les représentations du corps, les différences du corps, et ce que ça implique dans les relations sociales, dans les pratiques. Ça m'intéresserait toujours, il y a toujours d'autres possibilités, il y a entre autres la possibilité d'aller voir justement ces fameux Brésiliens d'origine japonaise qui sont au Japon maintenant, de savoir comment ça se passe. Notamment aussi au niveau du métissage, parce qu'on sait que là-bas, c'est des questions qui ne sont pas forcément évidentes, disons, dans les politiques nationales japonaises, dans l'idéologie, etc. Puis il y a l'idée aussi de généraliser la représentation du corps avec peut-être un questionnement qui s'orienterait vers la question de la santé. Et ça, c'est autre chose, c'est mon parcours d'étudiante m'a amenée à donner des cours à des puéricultrices. Et donc, j'en suis venue à m'intéresser justement aux techniques du corps, au sens strict de Marcel Mauss. Ça reste cette différence dans les perceptions des représentations du corps et de l'altérité.
Alors, vous avez dit qu'en choisissant ce sujet, il y avait quelque chose qui pouvait faire miroir par rapport à votre histoire personnelle. Est-ce que, après avoir fait ce terrain, après avoir défriché comme ça une bonne partie de votre thèse, est-ce que ça vous a renvoyé aussi de nouvelles questions par rapport à votre histoire ?
J'ai fait une comparaison entre les Japonais et moi. Et la première chose que je vois, qui est la première chose qui saute aux yeux, c'est que moi, je ne suis pas marquée par la différence comme les Japonais au Brésil le sont.
C'est mal physiquement.
Physiquement, tout à fait. Ici, alors certes, je suis brune, mais bon, en France, ça choque pas trop les gens. Et donc, je passe complètement inaperçue dans la rue. Je parle français sans accent, donc je passe aussi inaperçue. Par contre, les Japonais, qui donc n'en sont plus, sont des Brésiliens, restent marqués dans leur apparence physique. Et ça, aujourd'hui, encore aujourd'hui, même s'ils sont très bien intégrés socialement, économiquement, ils ont souvent des professions avocats, enseignants, enfin des professions relativement haut placées. Et malgré ça, ils sont marqués par leurs différences physiques. Et c'est là que je me dis que c'est une chance pour moi de ne pas l'être, mais en même temps, quelque part, c'est désolant de savoir qu'on ne peut pas être différent physiquement et que ça pose encore problème.
Le monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture Plus.